Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux musiciens de nous avoir conduits dans ces moments de louange à notre Seigneur. Ce matin, nous allons reprendre notre étude donc du livre de Josué que nous avions commencé il y a 2 semaines. Et nous y avions vu le chapitre 1 où l'Éternel demande à Josué de se fortifier et de prendre courage afin de prendre possession du pays qu'il avait promis à Abraham des siècles plus tôt. Le peuple d'Israël a été effectivement dans l'esclavage pendant 400 ans en Égypte, puis ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, car ils avaient eu peur, ils n'avaient pas pris courage, ils avaient eu peur de prendre le pays que pourtant l'Éternel leur avait donné. Et on voit ça lorsque dans le livre de la Genèse, dès ce moment-là, au chapitre 15, l'Éternel réitère sa promesse à Abraham, cette promesse qu'il avait faite dans le chapitre 12, où dans le chapitre 15, il y a cet épisode où il va passer entre les morceaux d'animaux découpés et ainsi il ratifie sa promesse, il la signe en quelque sorte, et où il dit à Abraham que ses descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans et qu'ils ne reviendront dans ce pays de Canaan qu'après cela. Et une des raisons pour lesquelles l'Éternel l'a voulu ainsi, et c'est ce qu'il dit à Abraham dans Genèse 15, c'est que la faute des Amoréens, les Amoréens qui représentent donc ces peuples qui sont dans la terre promise, dans la terre de Canaan, que leur faute n'est pas arrivée à son comble. Maintenant, les 400 ans sont passés, le péché, leur péché est arrivé à son comble, et à travers ce livre de Josué, nous allons découvrir un aspect de notre Seigneur qui parfois nous dérange, sa sainteté. Nous allons voir son jugement s'abattre sur ses peuples et sur leurs villes, les unes après les autres. Mais il ne faut surtout pas penser que la sainteté de Dieu fait du favoritisme et qu'elle est du côté des Israélites. Car, comme on le verra dans quelques chapitres, au chapitre 7, lorsque Achan, un homme du peuple d'Israël, ne respecte pas les prescriptions de l'Éternel, lui et toute sa famille seront traités exactement comme ces peuples de Canaan et toutes leurs villes qui sont vouées à la destruction. Non, la sainteté de Dieu est du côté de Dieu seul. Elle n'est pas du côté de qui que ce soit d'autre. Elle ne fait pas de favoritisme. Et bien que ce soit un aspect de notre Seigneur qui puisse peut-être nous déranger un peu, particulièrement peut-être dans ce livre de Josué, lors de la conquête du pays de Canaan, cette sainteté est juste et elle punit pareillement toute personne qui n'obéit pas à la loi et aux ordres de l'Éternel. Mais un autre aspect de Dieu est qu'il est gracieux et qu'il sauve celui qui croit et celui qui espère en lui, celui qui a la foi. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 2 de ce livre de Josué. Et nous allons voir que là non plus, notre Seigneur ne fait pas de favoritisme et qu'il va sauver Rahab, une prostituée étrangère, de la ville de Jéricho, une ville ennemie que l'Éternel a vouée à la destruction, une ville qui va bientôt tomber. Alors, lisons ce chapitre, lisons notre texte, Josué chapitre 2. Nous allons lire tout le chapitre et voyons ce que l'on peut en apprendre. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho ». Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays ». Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi ». Qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans le ciel et en bas, sur la terre. » Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi, avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui se trouvent chez toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit comme vous l'avez dit. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Ce matin, nous allons voir 3 points. Nous allons voir la foi de Rahab. Nous allons voir que Rahab a une foi qui s'appuie sur ce que l'Éternel a déjà fait. Ensuite, nous verrons que cette foi de Rahab est une foi qui se transmet, une foi qui porte du fruit, une foi qui est vivante. Et enfin, nous verrons la signification de ce cordon rouge qu'elle a reçu. Dans le chapitre 13 du livre de l'Exode, Moïse avait envoyé 12 espions dans le pays promis pour qu'ils l'explorent et fassent un rapport au peuple. Et lorsqu'ils étaient revenus de leur exploration et qu'ils avaient fait leur rapport, ils avaient tous reconnu, sans exception, que c'était un pays magnifique où il y avait des grappes de raisins énormes, des mets succulents et un pays où coule le lait et le miel. Ils étaient donc tous d'accord pour dire que le pays était bon. Le problème, c'était que les gens qui y habitaient étaient forts, qu'ils étaient très forts, qu'ils étaient comme des géants, comme nous l'a dit le pasteur Samuel il y a 2 semaines. Et bien que l'Éternel leur ait dit « Mais je suis avec vous !» 10 des 12 espions, tous sauf Josué et Caleb, assurèrent Moïse et convaincurent le peuple que la conquête ne serait pas possible. Ils ne sont pas rentrés sur la terre promise, ils n'ont pas connu le repos promis, parce qu'ils n'ont pas cru en l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a condamné cette génération à errer dans le désert pendant 40 ans, et qu'aucun d'eux n'a connu le pays promis. Aucun d'eux, sauf évidemment ceux qui ont eu confiance en l'Éternel, les deux espions qui ont eu confiance, Josué et Caleb, qui eux ont pu rentrer et qui vont rentrer maintenant dans la terre promise. Même Moïse, on s'en souvient, avait péché contre l'Éternel et n'avait pas pu rentrer dans le pays. Il n'avait pu le voir que de loin sans pouvoir y rentrer. Il ne l'avait vu que de l'extérieur. Et nous voilà donc maintenant au début de ce livre de Josué, au chapitre 2. 40 ans plus tard, la génération de Moïse est passée. Josué et Caleb sont un peu plus âgés, ils doivent avoir à peu près 80, 85 ans. Et l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ils se retrouvent donc une nouvelle fois dans la position dans laquelle était Moïse, aux abords de la terre, et le abords de la terre promise, et le moment est venu de renvoyer des espions afin qu'ils explorent et fassent leur rapport. La dernière fois, sur les 12 espions, seulement 2 avaient donné un rapport favorable. Alors cette fois, Josué va en envoyer seulement 2. En fait, la raison pour laquelle il en envoie seulement 2, c'est que l'Éternel, le Dieu de l'univers, a un but bien précis pour eux. Et au verset 1 de ce chapitre 2, on peut lire « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab. Ce n'est pas un hasard. Dans sa souveraineté, le Seigneur avait prévu qu'ils aillent directement chez Rahab. Le Seigneur avait le but bien précis de les envoyer chez la prostituée Rahab. Et à partir du verset 9, Rahab va faire une confession de foi qui aurait fait complètement pâlir de honte les 10 espions qui avaient donné un rapport défavorable s'ils étaient encore là. Rahab fait la confession, en fait, que ces 10 espions auraient dû faire 40 ans plus tôt. Et elle dit au verset 9, et cela bien avant que la muraille de Jéricho ne se mette à trembler, elle dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » Elle ne dit pas « Il est possible que… » ou alors « Nous avons fait le calcul et nous avons peur que… » ou « Il y a une forte probabilité que… » Non, elle dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » Il n'y a aucun doute en elle. Sa confiance est totale. C'est comme si la chose s'était déjà passée. Remarquez également qu'elle ne dit pas « Je le sais, l'Éternel va vous donner ce pays », mais qu'elle dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays ». La chose est comme déjà accomplie. Et elle continue en disant probablement la chose pour laquelle les 10 espions auraient été les plus honteux. Elle dit « La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Alors que les espions, dans Nombre au chapitre 13, avaient dit « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous, ce sont comme des géants. » Et à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » Et lorsqu'un peu plus loin, au début du chapitre 14, Caleb et Josué avaient essayé de les raisonner et avaient dit au peuple, « Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. » En réponse à cela, l'Assemblée voulait lapider Josué et Caleb. Et l'Assemblée, le peuple de Dieu, voulait retourner en Égypte. À cause du rapport de ces 10 espions, ils avaient perdu courage et ils voulaient retourner en arrière. Sur quoi, on s'en souvient, et c'est ça qui nous intéresse ici particulièrement ce matin, l'Éternel était descendu sur la tente de la rencontre et avait dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui ?» Parce qu'ils ne faisaient pas confiance en l'Éternel et qu'ils avaient oublié ce que l'Éternel avait accompli au milieu d'eux, les 10 espions pensaient qu'ils n'étaient que des sauterelles aux yeux des Cananéens. Alors qu'en réalité, ces peuples de Canaan qui leur faisaient tellement peur à eux, étaient eux, les peuples cananéens, remplis de terreur, car ils avaient entendu parler et qu'ils se rappelaient de ce que l'Éternel avait fait pour le peuple d'Israël. comment l'Éternel avait asséché la mer des roseaux devant eux, comment il leur avait procuré la victoire face au roi des Amoréens, Sihon et Og. Et loin de les voir comme des sauterelles, ils tremblaient face à eux, comme le dit Rahab ici. Et s'ils sont terrorisés et qu'ils tremblent devant eux, ce n'est pas pour des raisons humaines, on le comprend bien. Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël serait particulièrement nombreux ou particulièrement fort. On voit que non, au contraire, ils sont plus faibles physiquement que eux. Mais c'est parce que leur Dieu est un grand Dieu. Et c'est ce que dit Rahab ici aussi, au verset 11. Du moins, c'est ce qu'elle implique. Au verset 11, elle dit, en l'apprenant, c'est-à-dire en apprenant ce que l'Éternel avait fait pour eux, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans le ciel et en bas, sur la terre. Et Rahab sait, et ils savent tous, que personne ne peut rien faire contre celui avec qui Dieu est. Je pense que l'on peut parfaitement imaginer ce qu'ont pu ressentir ces peuples de Canaan 40 ans plus tôt, quand ils ont vu que le peuple de l'Éternel explorait le peuple et qu'ils allaient en probablement rentrer pour en faire la conquête. Ils devaient se dire, c'est fini pour nous. D'ici quelques jours, ils vont rentrer, l'Éternel est à leur côté et nous ne pourrons absolument rien faire. Et puis, ils observent, impuissants qu'ils sont, et ils les voient retourner dans le désert. Ils se disent, tiens, c'est bizarre, peut-être qu'ils vont faire une balade. En tout cas, espérons qu'ils y restent un bon moment. Et effectivement, le peuple de l'Éternel est retourné dans le désert, mais pas pour faire une balade. Il y est retourné parce qu'ils n'ont pas eu confiance en l'Éternel pendant 40 ans à cause de leur manque de foi. Parce qu'ils avaient oublié ce que l'Éternel avait fait pour eux. Une chose que nous voyons à propos de la foi véritable, à propos de la foi qu'est en train de démontrer Rahab, c'est qu'elle s'appuie sur ce que l'Éternel a déjà fait. Et parfois, nous pouvons nous aussi avoir tendance à oublier ce que l'Éternel a déjà fait dans nos vies. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a déjà fait dans votre vie? Qu'est-ce que l'Éternel vous a montré à chacun d'entre vous personnellement? Les signes qu'il vous a donnés, peut-être les bénédictions dont il vous a déjà comblé, peut-être même les épreuves qu'il vous a permises de traverser, et la façon dont il vous en a sorti, et la façon dont il vous a fait grandir à travers ces épreuves. À travers ce texte, à travers la foi de Rahab, cette foi que les espions auraient dû avoir 40 ans plus tôt, nous apprenons que nous devons toujours nous remémorer et ne jamais oublier ce que l'Éternel a fait pour nous. Et c'est justement cela, c'est ce souvenir qui nous permet de prendre courage, d'avoir foi, et de croire dans ses promesses pour l'avenir. Ici, pour les Israélites, la promesse qu'ils peuvent rentrer dans la terre promise, ne plus errer, ne plus être résident temporaire dans un désert inhospitalier et prendre résidence permanente dans cette terre promise. C'est un peu comme si Rahab disait « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, car je sais ce qu'il a fait pour vous, et du coup, je sais qu'il est avec vous. » Mais cette foi de Rahab est également une foi qui porte du fruit et une foi qui se transmet. Ce qui nous fait arriver à notre deuxième point. Je trouve cela tellement beau que l'Éternel ait choisi Rahab, une prostituée de notre peuple, une étrangère aux promesses de Dieu, une habitante de Jéricho, une ville vouée à la destruction, afin de fortifier les deux espions et à travers eux tout le peuple. Je trouve ça tellement beau, car cela nous montre que l'Éternel ne s'appuie pas sur la force des hommes pour faire sa volonté, mais qu'au contraire, il donne la force aux hommes, à ceux qu'il choisit dans sa souveraineté et dans sa grâce pour accomplir sa volonté. L'Éternel a choisi cette Rahab pour encourager, pour fortifier par sa foi ces deux espions. Et par leur intermédiaire, tout le peuple. Ces deux espions qui vont revenir après quelques jours auprès de Josué pour faire leur rapport et qui vont dire au verset 24 essentiellement ce que Rahab leur a dit par la foi. Ils vont dire au verset 24, le dernier verset que nous avons lu ce matin, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Rapport un peu plus encourageant et radicalement différent de celui des 10 espions 40 ans plus tôt, aux yeux de qui les Israélites n'étaient que des sauterelles. Et ceci nous montre que la foi véritable est aussi une foi contagieuse. Je veux dire, une foi qui va se transmettre. La foi de Rahab s'est transmise à ces deux espions. Et aujourd'hui aussi, les gens autour de nous, nos frères et nos sœurs dans l'Église, peuvent être fortifiés et prendre courage grâce à notre foi. Et nos familles, et nos collègues, et nos amis partout dans le monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, peuvent aussi être touchés à travers notre foi. La foi de Rahab a permis au peuple de prendre courage et d'entrer dans le pays promis. Quelle foi ! Quelles conséquences pour le peuple ! En fait, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, le chapitre sur les héros de la foi, il y a seulement deux femmes qui sont mentionnées. La première de ces femmes, c'est Sarah. Sarah, la femme du grand patriarche et père de la foi Abraham, qui, elle, a cru dans la promesse de l'Éternel que malgré son âge avancé, elle pourrait avoir une descendance. Et la deuxième de ces femmes, eh bien, c'est Rahab, la prostituée, qui a cru à la promesse que l'Éternel avait faite au peuple d'Israël, un peuple dont elle n'avait aucune part. Là où les 10 espions qui avaient, eux, été minutieusement sélectionnés, un par tribu, on peut lire ça dans Nombre chapitre 13, qu'il avait été sélectionné, choisi parmi les princes, un par tribu, n'avaient pas cru à cette même promesse qui pourtant leur était faite à eux. La foi de Rahab est vraiment remarquable. Et par la foi, elle va passer d'une maison de prostitution, une maison de honte et de déshonneur, à une maison où elle est fille du grand roi, une maison de gloire et d'honneur. Mais cette foi de Rahab, cette foi contagieuse qui s'appuie sur ce que l'Éternel a déjà fait afin de s'approprier ses promesses, est également une foi agissante, une foi qui ne reste pas inerte, une foi vivante. Hébreux 11 dit « C'est par la foi que Rahab la prostituée n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. » Beaucoup de commentateurs ont fait remarquer que la position de la maison de Rahab peut être vue comme un symbole de là où elle se situe spirituellement. Rahab, on le voit ici ce matin dans notre texte, habite sur la muraille de Jéricho. Et du coup, elle n'est ni vraiment à l'extérieur de la ville, ni non plus vraiment à l'intérieur de la ville. Elle se situe un peu entre les deux. Et spirituellement, elle ne doit pas rester dans cette position délicate. Elle doit prendre position. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Par la foi, elle fait confiance à l'Éternel. Elle choisit de sortir de la ville de Jéricho, la ville de destruction, et d'entrer dans le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons nous aussi prendre position pour notre Seigneur. Nous ne devons pas rester assis entre deux chaises et prendre position pour le Seigneur dans notre société ici, aujourd'hui, impliquera prendre des risques, comme nous le rappelait également le pasteur Samuel il y a 2 semaines. Cela impliquera un risque et un sacrifice, car cela voudra dire que nous allons naviguer à contre-courant des valeurs de ce monde. Et que nous risquons ainsi d'être rejetés par ce monde, que ce soit au travail ou dans nos relations personnelles. Ici, Rahab prend position pour l'Éternel au risque de sa vie. Elle cache les espions sur son toit, ensuite elle ment aux envoyés du roi de Jéricho et les envoie sur un autre chemin, sur une fausse piste. Et on peut comprendre que si ces envoyés du roi avaient douté de ce qu'elle disait, s'ils avaient décidé de fouiller la maison de Rahab, s'ils étaient montés sur le toit et qu'ils avaient trouvé les deux espions, probablement Rahab et probablement également toute sa famille, auraient été exécutés. Mais elle a fait confiance à l'Éternel. Probablement, les envoyés n'ont même pas douté de ce que leur disait Rahab, car ils se disaient, cette femme, cette prostituée, n'osera pas nous défier, elle n'osera pas nous mentir. Mais le Seigneur aime choisir et qualifier les petits de ce monde, ceux dont on ne fait aucun cas afin de laisser éclater sa gloire. Et il fait cela afin que toute la gloire lui revienne à lui seul. Si Rahab est dotée d'une telle foi, qui produit un tel fruit, qui produit un tel courage, c'est uniquement parce que le Seigneur la lui a donnée. On connaît bien ce verset dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 que nous a tout à l'heure lu et relu Jean-Pierre, qui dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi de Rahab est une foi qui lui donne du courage et qui porte du fruit. En fait, une foi qui ne porte pas de fruit, ce n'est pas une foi véritable. Une foi sans fruit, ce n'est pas la foi qui est le don de Dieu. Rahab est mentionnée une deuxième fois dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, où Jacques nous parle des œuvres de la foi, c'est-à-dire du fruit de la foi véritable. Et où il nous dit « Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin ?» Oui, une foi véritable porte toujours du fruit. Alors je pense que ce matin, nous pouvons nous aussi nous poser la question, chacun d'entre nous, dans notre cœur, personnellement, quel est le fruit que ma foi porte ? Mais ce n'est pas le fruit de la foi de Rahab qui la sauve. Et ce n'est pas le fruit de notre foi qui va nous sauver. En fait, vous savez, ce n'est même pas notre foi qui nous sauve. Celui qui nous sauve, le seul qui puisse nous sauver, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Et il nous sauve, effectivement, en réponse à notre foi, celle qui porte du fruit, notre foi véritable. Ce qui nous amène à notre troisième point. Car en réponse à sa foi, Rahab, les envoyés vont lui remettre un cordon de fil rouge qu'elle devra accrocher à sa fenêtre comme un signe qui représente son assurance qu'elle sera sauvée de la mort. Le signe pour annoncer aux soldats d'Israël qui vont bientôt venir pour répandre la mort dans Jéricho qu'ils ne doivent pas toucher à Rahab et à tous ceux qui sont dans sa maison, quels qu'ils soient. Le signe qui montre que la colère de Dieu ne va pas s'abattre sur elle car elle a eu la foi. Le signe qui la couvre et la protège. Le signe qui va la sauver et lorsque le Seigneur va faire s'écrouler tout autour d'elle la muraille, sa maison, à elle, qui est sur la muraille, ne va pas s'écrouler. Ce signe que sa maison est protégée et que de la destruction ne l'atteindra pas, ce signe n'est pas sans nous rappeler de ce qui s'était passé lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lors de la dixième plaie que le Seigneur a fait s'abattre sur tout le pays d'Égypte, où tous les premiers-nés qui n'étaient pas dans une maison couverte par un signe allaient mourir. On se souvient que ce signe qui détournait la colère de Dieu était le sang d'un agneau sans défaut. Et que lorsque la mort est passée sur l'Égypte, elle n'avait pas atteint les premiers-nés des maisons couvertes par le sang de l'agneau. C'est l'origine de la Pâque juive. Et un signe, c'est toujours quelque chose qui indique, qui pointe vers autre chose de plus grand. Et ce signe du cordon rouge ou ce signe du sang des agneaux sur les linteaux pointe vers Jésus-Christ, le vrai agneau de Dieu, sans défaut, qui aujourd'hui nous donne l'assurance, nous protège et nous sauve de la mort éternelle. Rahab a eu confiance en Dieu. Et 1400 ans plus tard, Jésus-Christ, cet agneau sans défaut, a lui aussi eu confiance en Dieu. Le Dieu trois fois saint a dit en quelque sorte à la prostituée Rahab, « Si tu me fais confiance, tu vivras et les conséquences de ton péché ne retomberont pas sur toi. Et tu connaîtras la paix et tu deviendras ma fille. » Et Rahab a eu confiance. Et les conséquences de la sainteté de Dieu, sa justice, c'est-à-dire la mort, ne s'est pas abattue sur elle. Et elle a obtenu ce qui lui avait été promis. Rahab est mentionné une troisième fois dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, au chapitre 1, au verset 5, un des tout premiers versets du Nouveau Testament. Les deux autres fois qu'elle est mentionnée, elle est mentionnée comme étant Rahab la prostituée. Mais ici, elle est Rahab, la fille de Salmon, qui a une place d'honneur dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, son véritable sauveur. Et en la plaçant ainsi dans sa généalogie, Matthieu, mais aussi l'Esprit de Dieu, nous montre que Jésus n'a pas honte d'elle, mais qu'au contraire, il est fier d'elle, car elle a eu la foi. Et il est fier aussi de chacun d'entre nous qui plaçons notre confiance en lui et qui avons la foi. Parfois, peut-être, nous pouvons nous sentir un peu comme Rahab, sale devant Dieu, pas digne, indigne de lui. Mais peu importe notre passé, sa colère se détourne et quiconque croit en lui ne mourra pas et aura la vie éternelle. Mais sa colère, qui provient de sa sainteté, de sa justice, ne fait que se détourner. Et sa justice, justement, implique que le péché doit être puni. Et comme à Rahab, le Seigneur nous dit à nous autres pécheurs aussi aujourd'hui, « Si tu me fais confiance, tu vivras. » Et dans le jardin de Gethsémané, le Père a dit à son Fils unique, le roi des rois, le prince de la paix, le seul qui soit du côté de la sainteté de Dieu, le seul qui ne mérite pas de mourir, le seul qui soit sans défaut. Il a dit à son Fils unique, si tu me fais confiance, tu mourras et les conséquences du péché de Rahab retomberont sur toi, ainsi que les conséquences du péché de quiconque croira en moi. Et Jésus a dit « Amen, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il a eu confiance en son Père et il est mort par amour pour nous. Et en mourant pour nous, il a satisfait la justice et la sainteté de Dieu à notre égard. C'est en fait lui le vrai héros vers lequel pointe cette histoire de Rahab. C'est en fait lui le vrai héros vers lequel pointent toutes les histoires. La foi de Rahab, c'est un peu comme une main tendue vers le ciel. La foi et la confiance de Christ, c'est un peu comme une main tendue vers la terre qui prend la main de Rahab et de tous ceux qui tendent la leur vers lui. Et il prend la main de tous sans faire de favoritisme, car il ne met jamais dehors celui qui vient à lui, quoi qu'il ait fait dans son passé et qui qu'il soit. Remarquez que peu importe qui est dans la maison de Rahab, c'est ce que dit le texte, peu importe qui est dans sa maison, il ne sera pas touché car il est couvert par le signe. La foi de Rahab a permis au peuple de commencer à prendre courage et d'entrer en terre promise, sur la terre où ils pourront avoir une vraie maison, là où ils n'habiteront plus dans des tentes, là où ils seront plus résidents temporaires, là où ils pourront trouver une demeure et le repos. Et cette terre promise, cette promesse qu'ils avaient, ce n'était encore une fois qu'un signe. Elle n'était que l'ombre des choses à venir. Et par la foi et par l'œuvre de Christ, son peuple, c'est-à-dire nous, pouvons aussi nous saisir de sa promesse. Nous avons accès à notre terre promise. Nous avons accès au royaume des cieux, là où Jésus nous prépare une place dans sa maison, comme il nous le promet dans Jean au chapitre 14. Là où nous ne serons plus résidents temporaires, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleurs. Là où nous connaîtrons la vraie paix pour toujours. Par la foi, Rahab s'est appuyé sur ce que l'Éternel avait déjà fait et a pu ainsi se saisir de ses promesses et vivre une vraie vie, une vie fixée avec les yeux sur lui, une vie qui a glorifié Dieu. et par la foi, nous aussi, nous pouvons nous appuyer sur ce que l'Éternel, sur ce que notre Dieu a déjà fait pour nous. Non seulement ce qu'il a déjà fait dans nos vies personnelles, comme nous l'avons dit précédemment, mais aussi et surtout sur ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur terre, son sacrifice à la croix, qui nous a rachetés du péché et nous a fait devenir des fils et des filles du grand roi. Et ainsi, nous aussi, nous pourrons vivre avec les yeux fixés sur ses promesses, avec les yeux fixés sur l'éternité, avec lui, dans sa maison. Et nous pourrons vivre ici-bas, maintenant, une vie dans l'espérance, une vie d'amour envers les autres, une vie de paix qui le glorifiera, mais aussi une vie à contre-courant des valeurs de ce monde, une vie où nous pourrons prendre des risques pour lui, pour celui qui nous a aimés le premier et qui est mort pour nous. Une vie dans laquelle nous pourrons nous aussi dire comme Rahab, c'est déjà fait. Il nous a déjà donné le pays promis. Ou alors, comme l'affirmait l'apôtre Paul, nous pourrons aussi dire dans Éphésiens au chapitre 2, en Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Alors prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Nous voulons nous souvenir maintenant et chaque jour de quel amour tu nous as aimés en Jésus-Christ. Merci pour nous l'avoir donné. Seigneur Jésus, merci pour t'être humilié, pour être venu sur la terre dans un corps faible, dans une famille faible, pauvre. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te prier que toujours tu puisses nous rappeler cela, afin que nous puissions nous saisir de tes promesses, de ta promesse, l'éternité avec toi. Et que maintenant, bien que nous soyons encore dans des tentes, bien que nous soyons résidents temporaires sur cette terre, nous puissions vivre avec les yeux fixés sur ta promesse. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci parce que nous savons qu'un jour nous serons pour l'éternité avec toi et nous pouvons vivre dès à présent une vie qui te glorifie, une vie dans la joie, une joie qui ne s'appuie pas sur les circonstances de ce monde, mais sur ta promesse. Seigneur, donne-nous de ne pas vouloir retourner en Égypte comme l'ont voulu le peuple 40 ans avant Josué. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner de toujours être forts, nous donner beaucoup de force et prendre courage. Donne-nous également une foi vivante. Donne-nous une foi qui se transmette à ceux qui sont autour de nous. Seigneur, je te remercie pour ta gloire, pour ta grâce. Et je te prie que tu puisses nous bénir, chacun d'entre nous. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.